Bonjour, chers frères et sœurs en Christ.
Exode, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. On peut remarquer dans ce dernier passage que l'on peut faire des dieux en argent et l'on peut faire des dieux en or. Et par ricochet, l'or et l'argent peuvent devenir des idoles et des dieux pour certains. L'autre point qu'on peut soulever dans ce passage, c'est que Dieu interdit qu'on lui associe les idoles et ces petits dieux-là. Pour me les associer, vous n'en ferez point. Donc, Dieu plus quelque chose, ou même faire du syncrétisme religieux, c'est interdit par Dieu lui-même. C'est quoi la gravité de l'idolâtrie? Voyons quelques versets. Exode chapitre 32, versets 3 à 5, dit ceci. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leur main, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il aura une fête à l'honneur de l'Éternel. » Il y a trois points importants que je voudrais toucher dans ce passage parce que c'est frappant, c'est marquant. Le premier, c'est qu'on peut remarquer que c'est leurs propres anneaux, leurs propres boucles d'oreilles qui sont devenus leurs dieux. Deuxième chose, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Waouh. Ce veau d'or qu'ils viennent de former, il lui attribue ce que Dieu a fait pour eux. L'idole prend la place de Dieu, l'honneur qui est dû à Dieu. Troisième chose, c'est que non seulement Aaron bâtit un autel devant l'idole, mais il dit, demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. De quel Éternel parle-t-il? Je pense que la question mérite d'être posée là. Parce qu'il bâtit un autel devant l'idole et en même temps il dit que demain il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que c'est l'Éternel des armées ou c'est de l'idole? Parce que là on se retrouve dans une véritable confusion, c'est tout un amalgame. Et c'est ça aussi qui caractérise l'idolâtrie. L'amalgame, la confusion. Exode 32, verset 25 dit ceci. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Bien-aimé, la qualité d'un responsable, ce n'est pas d'accompagner le peuple de Dieu dans tout ce qu'il fait, même dans le désordre. Dans une église, la responsabilité, la qualité des responsables, c'est d'interpeller le peuple de Dieu justement sur les questions de l'heure, sur les mouvements d'ensemble, sur tout ce qui est en vogue, afin que chacun puisse tourner son regard vers la parole de Dieu et uniquement vers la parole de Dieu. Et Dieu va montrer sa colère parce qu'il n'aime pas l'idolâtrie. Ce même jour-là, 3000 hommes parmi le peuple périssent en une seule journée. On a pu le voir, l'idole c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu en nous. Ou tout ce qui est érigé en rang de Dieu, qui rivalise même avec Dieu. Dieu hait l'idolâtrie. Et en tant que peuple de Dieu, même encore aujourd'hui, nous devons éviter tout amalgame dans notre adoration. Nous devons refuser toute forme de compromis, toute forme de syncrétisme religieux et même nous éloigner des ordres mystiques comme la rose-croix, le nouvel âge, l'art des maïkari et que sais-je encore. Les idoles, que j'appelle encore les petits dieux, peuvent être de tous ordres, peuvent être en statue de bois. Ésaïe, chapitre 44, versets 15 à 17, dit ceci, c'est très frappant ce passage. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti. Waouh, c'est bon ça, le rôti. Et il se rassasie. Il se chauffe aussi. Et il dit, ha, ha, je me chauffe. Je vois la flamme. Ça aussi, c'est bon pour l'hiver, n'est-ce pas? Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque. Et il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Waouh. Mais les idoles ne sont pas seulement en bois, ne sont pas seulement des statuettes. Les idoles peuvent être de toute nature, de toute forme. Ça peut être un arbre, une montagne, une pierre, une forêt, une rivière. Quand j'étais dans mon pays, la Côte d'Ivoire, une sœur en Christ s'appelait Nzoué. Parce que son père, qui n'était pas chrétien, attribuait sa naissance à un coup d'eau que lui, il adorait. Un coup d'eau auquel il faisait des sacrifices. Et donc, il a appelé sa fille Nzoué, qui signifie simplement l'eau. Mais l'idole aussi peut être un humain. On peut adorer un humain comme un dieu. Au Népal, il y a des humains qui sont adorés, et notamment des petites filles. Elles sont adorées comme des déesses vivantes au Népal. Au Bénin, une femme appelée Parfaite Barnabé dit qu'elle est Dieu et même le Saint-Esprit. Bien qu'elle ait un corps là, mais elle dit qu'elle est Dieu et le Saint-Esprit. Et tenez-vous bien, il y a des centaines de milliers de personnes qui la vénèrent et qui la suivent. Donner à une chose ou à une personne l'importance que Dieu n'a pas dans notre vie, c'est idolâtrer cette chose ou cette personne. Même si physiquement ce n'est pas une idole devant laquelle on se prosterne. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 5, verset 5, dit ceci, que le cupide est un idolâtre, mais il n'a pas fait d'idole devant laquelle il se prosterne. Mais la Bible dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est donc pas une idolâtrie traditionnelle, comme on le voit. Un autre passage qui est très frappant, c'est Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19, qui dit ceci, car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Je répète cette phrase. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Là encore, on peut remarquer qu'ils n'ont pas fait une statuette, ils n'ont pas fait une représentation de leur ventre devant laquelle ils se prosternent. Mais la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Pourquoi? Parce que leur ventre et partant leur corps entier, le profit, le gain, les choses de la terre, c'est plus important pour eux que Dieu. C'est de l'idolâtrie. Alors, on a pu remarquer que l'idole, ce n'est pas toujours une chose hideuse, là. Une bonne chose peut devenir, peut être transformée en idole. Le bois, on a vu tantôt, qui sert à chauffer, à cuire et en même temps être une idole. L'argent peut devenir une idole. L'or peut devenir l'idole, le dieu, comme le veau d'or dans le cas d'Israël. Attention, on vient de voir également que la cupidité, ça peut devenir une idole. Le ventre, l'amour des biens, des choses de ce monde, ça peut être une idole. Ça peut être un dieu. Donc faisons attention, le travail, l'argent, le sport, les réseaux sociaux peuvent devenir comme une idole à laquelle on consacre toute notre force, toute notre âme, tout notre cœur et bien évidemment tout notre temps. Alors que notre relation avec Dieu est négligée, laissée comme le dernier de nos soucis. Et ça, c'est d'actualité. C'est peut-être vrai qu'aujourd'hui, on ne trouve pas des statuettes dans nos maisons, mais faisons attention que nous ne soyons pas dans la nouvelle forme d'idolâtrie. La loterie, les casinos sont devenus des liens qui détruisent des vies. Des gens ont sacrifié sur l'autel de maman, enfants, conjoints, foyers et parfois leur propre vie par amour pour l'argent. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10 dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais si l'idole est incapable, si l'idole est juste une statuette ou rien de si puissant, pourquoi les gens continuent dans l'idolâtrie et pourquoi ils font tant de sacrifices? Parce que l'idolâtrie, c'est aussi le monde des ténèbres, là où les démons, Satan et ses démons sont en action. Donc il y a une puissance ténébreuse dedans, des liens forts, des pactes. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 14, nous invite à fuir l'idolâtrie. Verset 19 et 20 dit, que dis-je donc? La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Moi, je suis né dans une famille initialement non chrétienne. Mes parents étaient éduqués dans la tradition pure africaine, dans le fétichisme et dans toutes sortes de mysticismes. Et mon enfance a été marquée par ces choses-là. J'ai accompagné mon père très jeune, 10, 12 ans, déjà chez des féticheurs. Je l'ai vu faire des sacrifices. J'ai été témoin des incantations. C'est le monde des ténèbres. J'ai un oncle maternel qui était puissant, mystiquement. Il avait des pouvoirs occultes notoires. Il était craint et adulé dans toutes nos régions. Évidemment, plusieurs personnes devaient l'envier d'être aussi puissant et craint. Mais sa fin a été sanglante parce qu'il se sentait malheureux, il s'est suicidé d'une façon sanglante dont je ne veux même pas parler. Jean chapitre 10, verset 10, dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ça fait toute une différence entre le monde des ténèbres et Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait me dire, bon, écoute-moi, je ne suis pas dans l'idolâtrie, je n'aime pas les idoles, ça c'est vraiment mauvais, c'est le monde des ténèbres, mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il y a de mal à posséder un talisman de protection, par exemple, ou avoir même un petit porte-bonheur pour s'attirer de la chance? Ça, ce n'est pas de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Pour moi, cela signifie en clair que Jésus-Christ seul ne suffit pas. Or, Dieu plus quelque chose, c'est de l'idolâtrie. Un chrétien doit-il croire et agir selon la superstition? Ça aussi, c'est un point fort. La superstition comme, si vous faites un pas dans le caca de chien avec votre pied droit, attention, vous êtes condamné à une vie de désespoir. Mettre le pain à l'envers, ça porte malheur. Il faut toujours mettre le pain à l'endroit, sinon... Le chat noir est resté jusqu'aujourd'hui comme un symbole de malheur. On raconte que Napoléon dit qu'il a perdu la bataille de Waterloo parce qu'il a vu un chat noir et puis ça a créé sa défaite. Tuer une abeille, et il y a beaucoup d'abeilles qui se promènent maintenant là. Tuer une abeille, ça porte malheur. Un essaim d'abeille là, c'est pire. Un malheur, présage de mort pour la famille. Et un des plus connus partout dans le monde, et notamment ici au Québec. On dit que le nombre 13 est maudit. Et que le vendredi 13, c'est une journée de malheur. Je pense que en mai prochain, là, mai 2022, il aura un vendredi 13. Je ne sais pas comment ils vont vivre, mais bon. Il y a un vendredi 13 qui s'en vient dans quelques mois. Et à cause de cette croyance... Il n'y a pas de 13e salle dans des cinémas. Là. La plupart des cinémas, il n'y a pas de 13e salle. Dans la plupart des avions, il n'y a pas de 13e rangée parce que ça va porter malheur. On va connaître une catastrophe aérienne. Et au niveau des hôtels, pas de 13e étage. On ne veut pas que l'hôtel s'écroule, que les gens meurent. Pas de 13e chambre non plus parce qu'aucun client ne va vouloir... Non, pas de 13e chambre. Bien-aimé, que ce soit talisman, porte-bonheur ou superstition, est-ce que l'Éternel des armées est mon abri sûr? Est-ce que ma confiance est pleinement et exclusivement en Dieu? En Jésus, nous avons les merveilleuses promesses. On peut lire Psaume 91, versets 1 à 2, qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si je repose à l'ombre du Tout-Puissant, est-ce que j'ai encore besoin de talisman, de porte-bonheur, ou même crainte, toutes les croyances superstitieuses? Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Satan, les démons, le monde des ténèbres est une réalité parce que la Bible en parle. C'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais Christ est vainqueur. Colossiens chapitre 2, verset 15 dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, Christ est avec nous et il est même en nous. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Tous les jours, même les vendredis 13, je suis avec vous. Ça, c'est rien, ça, pour Jésus. Il est le Tout-Puissant. Jusqu'à la fin du monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi aurais-je encore peur? Ok. Pas d'adoration, pas de talisman. Mais est-ce que je ne peux pas associer à ma confiance en Dieu quand même la pensée, la pratique de la pensée positive? Ça, au moins, c'est positif, n'est-ce pas? D'abord, c'est quoi la pensée positive? C'est le concept de penser toujours positivement. Pour obtenir tout ce qu'on souhaite, il faut formuler des phrases et les répéter pour atteindre le succès, la santé et le bonheur. Il faut formuler des phrases positives pour atteindre le succès, la santé et le bonheur. Donc, je répète, ces phrases doivent être positives. Par exemple, si vous voulez cesser de fumer, vous ne prenez pas la décision ou faites des phrases de dire « je ne fumerai plus ». Parce que c'est négatif. C'est une phrase négative. Même si c'est un bon objectif, il faut plutôt dire « je suis en bonne santé, je retrouve mon souffle ». Parce que ça, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Le présent de l'indicatif, ça vous permet d'avoir plus vite le résultat. C'est un résultat maintenant qui n'est pas dans un futur lointain. Et il faut éviter, pour se donner plus de chance, les personnes qui sont négatives, on dirait même des personnes toxiques. Attention, il ne faut pas juste faire des phrases positives, avoir des pensées positives, mais il faut accompagner de votre formulation une visualisation. C'est-à-dire, vous êtes pauvre maintenant, vous êtes endetté, mais vous devez faire des phrases positives, avoir une pensée positive et visualiser que dans peu de temps, vous êtes riche, vous débordez d'argent, vous avez plein de comptes, vous avez même un jet privé. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut ajouter l'émotion positive. Parce que bientôt, vous allez être riche, vous allez être en bonne santé, vous allez avoir la réputation. Vous devez déjà maintenant que vous êtes endetté, que ça ne va pas, déjà maintenant vous devez éprouver la joie de ce que vous serez bientôt. Comme une femme enceinte qui ne voit pas encore le bébé, mais qui sait qu'elle est enceinte et que bientôt le bébé va être là. Voici la pensée positive. La joie du futur. Parlons des origines de la pensée positive. Selon moi, ça commence déjà au 19e siècle au moins. Parce que déjà au 10e siècle, au 19e siècle, il y avait un monsieur qui s'appelait Sawami Vive Canada. Et il affirmait, si des pensées, des actes positifs prédominent, notre persona sera positif et bon. S'ils sont négatifs, on devient négatif. Donc pour lui, positif, ça envoie le positif. Le négatif, ça envoie le négatif. Laissez-moi vous dire que Vive Canada, c'est un moine hindou. Il a été l'acteur clé dans l'acceptation et l'expansion de l'hindouisme, du yoga et de la méditation transcendantale aux États-Unis. D'ailleurs, il a fait un discours au Parlement mondial des religions. C'est une rencontre syncrétiste. Il a fait un discours au Parlement mondial des religions à Chicago, donc on est bien aux États-Unis, où il a été mentionné pendant 2 minutes par 7000 personnes, précisément le 11 septembre 1893. N'est-ce pas ça le succès? Est-ce que c'est le succès qu'on cherche? Il n'était pas chrétien. Et selon les témoignages, quelques minutes avant ce discours qui va le rendre très populaire, il a fait une prière à une déesse. Je n'ai pas voulu retenir le nom. La pensée positive repose sur l'autosuggestion, qui est la base de ce qu'on appelle la méthode de Coué. Le psychologue et pharmacien français, Émile Coué, qui a vécu de 1857 à 1929, lui prenait l'autosuggestion, l'auto-hypnose et la répétition des prophéties auto-réalisatrices. Il y a beaucoup d'auto là. Et ce sont les pensées positives. Pour un mieux-être tant curatif que préventif. Je n'en dirai pas plus. On ne peut pas parler de la pensée positive sans parler de sa base. C'est-à-dire la loi d'attraction. Parce que les tenants du mouvement de la pensée positive disent que l'univers est basé sur l'attraction. Autrement dit, nos pensées seraient des ondes chargées d'unités énergétiques. C'est-à-dire quand je mets une pensée, quand j'ai une parole, c'est une unité énergétique. Et cette unité énergétique peut être chargée négativement ou positivement. Donc si j'ai des pensées positives, c'est chargé positivement. Et Cette unité énergétique attire dans l'univers une vague qui est équivalente. C'est-à-dire, si j'ai des pensées positives, ça va attirer vers moi tout ce qui est positif. C'est différent d'un aimant, hein? Mais ils disent que ça agit comme un aimant, mais c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on sait scientifiquement que deux aimants de même pôle se repoussent. Mais pour eux, c'est les mêmes pôles qui s'attirent. En clair, une pensée positive attire le positif comme la santé, le succès, la richesse et le bonheur. Le concept a pris cette appellation de pensée positive avec l'apparition en 1952 de l'ouvrage « Puissance de la pensée positive » de qui? Vincent Norman Peale, qui est un pasteur et un auteur américain. Aujourd'hui, la forte adhésion de la pensée positive s'explique en partie, bien sûr, avec la sortie du film en 2006. C'est un film de Rhonda Byrne et le titre c'est « Le secret ». Je pense qu'il est sorti en anglais, là, comme je ne suis pas très fort en anglais, mais ça doit être « The Secret ». C'est bon, hein? Merci. Alors, ce film, Le Secret, soutient que des miracles se sont produits dans la vie des personnes de grande renommée, comme Platon, Shakespeare, Victor Hugo, Newton, Lincoln, Einstein et j'en passe, tous les grands de ce monde-là, parce qu'ils avaient le secret. Et ce secret n'est rien d'autre que la loi de l'attraction. Ils ont eu des pensées positives et ça a attiré vers eux la grandeur et la réputation qu'on connaît aujourd'hui. C'est quoi les motivations? Je vais juste prendre les phrases de ceux qui font partie de cette pensée positive, les tenants. Une dame qu'on connaît, enfin, qui est très vue sur les nets, là, que beaucoup suivent, Joyce Meyer. Elle dit ceci. Quand j'étais encore pauvre, donc elle était pauvre, mais elle a commencé déjà à faire les pensées positives, à visualiser et à voir les émotions positives. Quand j'étais encore pauvre, j'ai commencé à dire, je suis prospère. J'ai tellement d'argent que je ne sais que faire avec. Je peux bénir tous ceux qui me rencontrent. Je porte de beaux habits. Je conduis une belle voiture. Je vis dans une belle maison. Je suis béni et tous ceux qui me rencontrent veulent me bénir. Autre affirmation qui n'est pas d'elle. Ma vibration permet d'attirer tout le bien-être dans ma vie et tout autour de moi. Autre affirmation. Je suis l'aimant le plus puissant de l'univers. Autre affirmation. Je suis affirmation positive. Je l'ai pris telle qu'elle, c'est-à-dire les majuscules de « je suis là ». C'est comme ça que c'est écrit sur un CD à écouter pendant 21 jours qui va transformer votre vie. Je parlais de motivation. On peut tous remarquer que ce qui est présent, c'est « je, moi, ma, moi, je ». C'est au centre du concept. La vie tourne autour de « moi ». Ça m'a choqué aussi de voir. Je suis aimant. Dieu ne m'a pas créé un aimant. Il m'a créé à son image et selon sa ressemblance. Je ne suis pas un aimant. Je suis affirmation. Je me réduis à une affirmation positive maintenant. Bien-aimé, la Bible nous invite à examiner toutes choses, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la pensée positive, mais à cause du temps, prenons 6 points. La première chose, c'est que oui, c'est vrai, il existe un lien simple, cause à effet, qui n'a rien à voir avec l'attraction et le karma. Hein, pour d'autres personnes, hein, ils parlent aussi de karma. Lien simple, cause à effet. Nos pensées, nos paroles, nos actes, nos choix, nos décisions ont des conséquences sur nos vies. Ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction. Non. Si quelqu'un décide de voler, on le prend, il se retrouve en prison. La conséquence. Proverbe 17, verset 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disposition de notre cœur et de notre esprit a un effet sur notre être entier, sur notre vie. Ça, ce n'est pas la loi de l'attraction qui nous envoie ça. Un autre passage que je n'ai pas mis là, mais Proverbe chapitre 3, par exemple, versets 5 à 8, dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans d'autres versions, sur ton intelligence. Pas sur même ta pensée positive. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Qui est il? C'est Dieu. Dieu aplanira tes sentiers. Ce n'est pas les pensées positives qui vont aplanir nos sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et la conséquence, c'est quoi? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà le résultat. Ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction. Oui, comme je le dis, cause à effet, conséquence. La Bible dit, Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui. Les actes, les pensées qu'on a, les paroles, ça a des conséquences. Ce qu'on sème, on le moissonne. Ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction ni le karma. Moi, je pense que la plus importante conséquence dont un chrétien doit se souvenir et qu'on doit partager, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quand tu crois à Jésus, la conséquence est que tu es sauvé. Voici les faits. Ça, c'est le plus important parce que ça a une portée éternelle. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la loi de l'attraction implique que les gens méritent ou ont attiré tout ce qui leur arrive dans leur vie. C'est-à-dire malheur, accident, catastrophe, maladie, santé, richesse, réussite, tout. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est parce que tu l'as attiré vers toi par la loi de l'attraction. Ce qui n'est pas toujours vrai, c'est faux. Oui, des gens sont malades parce qu'ils ont décidé de s'abonner à la drogue et à la cigarette et qu'ils se retrouvent avec un cancer. Oui, il a voulu ses choix, mais c'est encore les conséquences de sa vie. Mais que dit de ces personnes corrompues, ceux qui vendent la drogue, qui sont devenus riches, parce qu'ils ont attiré par la pensée positive la richesse vers eux. Troisième point, la pensée positive fait le culte du moi. Je l'ai déjà dit, ça fait le culte du moi, tout tourne autour de moi. Alors que Christ nous invite à crucifier le moi, c'est pas ça l'évangile. L'évangile veut qu'on crucifie le moi, la pensée positive veut que le moi soit au centre de ma vie. Au centre même de l'univers. Voilà ce que Matthieu chapitre 16, verset 24 dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc chapitre 14, il va être encore plus clair. Il parle de haïr sa propre vie, qu'on doit haïr notre propre vie. C'est ça le message de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 dit « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. » Je ne dois pas être focalisé tout le temps, à tout moment, toutes mes pensées sur moi. Non, je dois penser à autrui. Quatrième chose que je voudrais souligner. La pensée positive fait de l'homme un Dieu qui formule et façonne son avenir. Avec tes pensées, ton avenir sera meilleur, tu auras une santé, tu vas avoir de la réussite, tu vas avoir de la réputation et tout ça. Hé, suis-je un Dieu? Mais ça n'a pas cessé. C'est la tentation originelle. Le diable a dit dans le jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Encore aujourd'hui, c'est d'attirer cette tentation-là. Bien-aimé, Christ nous invite à dépendre de lui. Matthieu chapitre 11, verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce qu'il a dit, allez-y à vos pensées positives, faites des pensées positives quand vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépendre de Christ. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui est le modèle, c'est Christ. Cette pensée n'est pas positive, elle est négative. Laissez-moi faire cette remarque. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Humainement parlant, on va dire que c'est une pensée négative. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a la forme négative, ne pas, vous ne pouvez rien faire. Mais en plus, il dit à ses disciples, sans moi là, vous êtes incapables. Hey, aujourd'hui, si tu dis ça à quelqu'un, tu dis, mais comment, tu me prends pour quoi? Pour un rien? Oui, le disciple de Christ est convaincu que sans Christ, il ne peut rien faire. Il ne compte pas sur ses pensées positives pour façonner sa vie. Il compte sur Jésus, dépend de Jésus. Christ n'appliquait pas la pensée positive, hein. C'est clair là. Finalement, bien-aimé, tout dépend de Dieu, du Dieu qui est souverain. Voilà ce qu'il dit ce Dieu-là. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu ne me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Il dit, en dehors de moi, il n'y a que néant. Il n'y a pas la pensée positive ou l'attraction qui va m'aider. Car je suis l'Éternel et il n'y en a aucun autre. J'ai formé la lumière et je crée les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Ce n'est pas la pensée positive qui crée le bonheur et le malheur. Oui, il y a des conséquences de nos actes. Mais tout dépend finalement du Dieu souverain. Oui, c'est moi l'Éternel qui fais toutes ces choses. Ésaïe chapitre 45, versets 5 à 7. Cinquième chose que je voudrais souligner, c'est dans Marc chapitre 14, versets 33 à 34. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus éprouve de la frayeur et des angoisses. Ok, c'est correct, c'est un humain. Quand il était sur terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Mais est-ce qu'il fait référence à la pensée positive pour dire, ok, de toute façon, je vais mourir, je vais souffrir, mais je sais que dans 3 jours, je vais ressusciter. Donc, je vais avoir une visualisation positive de ma résurrection et avoir des émotions positives. C'est ça l'enseignement de la pensée positive, n'est-ce pas? Non. Voilà ce que Jésus dit. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Aïe. Seigneur Jésus, fais un peu de visualisation, s'il te plaît. Aie des émotions positives, Jésus, dans 3 jours, tu vas ressusciter. Non! Christ n'est pas abonné à la pensée positive. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. Christ nous invite à prier, à veiller. Il ne nous invite pas à avoir des pensées positives qui, par la loi de l'attraction, vont nous envoyer le bonheur. Christ est notre modèle. Et c'est ça que j'ai dit. Il n'a pas fait de visualisation, il n'a pas eu d'émotion positive. Sixième et dernière chose que je voudrais souligner. L'univers n'est pas basé sur l'attraction, mais est gouverné par la souveraineté de Dieu. Ça, c'est important, c'est ce que la Bible nous enseigne. Même si puissance de la pensée positive, c'est écrit par un pasteur, c'est un humain, il peut se tromper. Il ne faut pas se fier aux écrits des humains, fut-il pasteur, révérend, apôtre des nations. Il faut se fier à la Bible qui est la vérité. Dans Actes chapitre 12, l'apôtre Jacques meurt par l'épée. Et dans ce même chapitre 12, Pierre qui est emprisonné est délivré miraculeusement. Qu'est-ce qu'on dirait si on suit la pensée positive? C'est parce que Jacques, lui, il n'a pas de pensée positive, il a eu des pensées négatives et l'univers lui a envoyé ça. Il est mort par l'épée. Et Pierre, lui, ah oui, c'est quelqu'un qui développe la pensée positive, parce que c'est ça le film Le Secret. Est-ce que tout, ces deux résultats dépendent du secret de Rhonda Byrne? Non, pas du tout. Dieu qui est souverain, regardez juste en haut, dans Marc. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, qui sont ses très proches. Mais ce Jacques très proche, c'est lui qui meurt par l'épée. Pas parce que Jésus ne l'aime pas, mais qu'il a décidé dans sa souveraineté que c'est maintenant là sa fin. Il va mourir par l'épée. Par la souveraineté de Dieu, il le décide. Et ce même Dieu puissant décide de sauver miraculeusement Pierre. Pas parce qu'il est incapable de sauver Jacques, mais parce qu'il a décidé ainsi. Ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction ni la pensée positive. D'ailleurs, Pierre, quand il était dans la prison, il était endormi. Ses pensées ne sont même pas allées sur un tel miracle pour dire que bon, c'est sa pensée positive. Non. D'ailleurs, quand il était délivré, la Bible dit qu'il pensait même qu'il faisait un rêve. Et que dit de l'église qui priait pour lui? Aucun d'eux n'a même imaginé, pensé à une telle délivrance pour dire que non, c'est leur pensée positive qui a sauvé Pierre. Non. Parce que quand Pierre arrivait à la porte, qu'il a commencé à frapper, et que la servante a dit, hey, c'est Pierre qui est là, ceux qui priaient dit, hey, tu t'es rendu folle. Mais Dieu l'a fait par sa souveraineté et non par la pensée positive. Le temps qui nous est imparti est terminé. Allons-y à la conclusion. Est-ce que je place toute ma foi uniquement en Jésus-Christ? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ et dans toutes les générations. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il est au-delà de tout ce qui est pensée positive. Je préfère m'appuyer sur lui que sur des pensées positives. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous as laissée, qui nous éclaire, qui nous guide et donne-nous de marcher et de placer notre confiance exclusivement en toi, au nom de Jésus. Amen.